Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Maïlys Besri, prix Goncourt du premier roman 2020 avec Le Tiers-Temps publié chez Gallimard, Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 avec L'Anomalie publié également chez Gallimard et Serge Joncourt, prix Femina 2020 avec Nature humaine publié chez Flammarion. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la saison des prix. Les noms de vos successeurs viennent d'être annoncés, Serge et Hervé. Maïlys, ça fait un petit moment, puisque le Goncourt du premier roman est remis au printemps. Vous avez reçu vos prix une année particulière. Hervé, je vous ai entendu dire que vous l'aviez accueilli, ce prix, avec surprise et patience. Il faut dire que la proclamation avait été décalée d'un mois et que l'annonce a été faite par visioconférence. Ça, c'est pour la patience. La surprise, c'était quoi? C'était de penser justement à la liste des Goncourt précédents et de se dire ben, « Je suis sur cette liste maintenant avec tous ces noms, tous ces auteurs dont pour certains, j'aime énormément leurs œuvres. »
Oui, oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, comme vous l'avez dit, on était quatre à attendre pendant 8 semaines. Et qu'on ne peut pas diviser les semaines. Toi, tu attends 2 semaines, moi, j'attends 2 semaines. Donc, on a tous attendu 8 semaines. Donc, c'était très long. Et la surprise, ça consiste aussi à se dire je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas pendant 8 semaines pour ne pas avoir la déception, évidemment, in fine. Donc, c'est principalement ça. Mais je pense que c'est pareil pour tous ceux qui sont sur des listes de prix, qui attendent patiemment que le jury finisse par se décider de savoir qui va l'avoir.
Maïlys, vous vous souvenez de votre réaction quand on vous a annoncé que vous aviez remporté le Goncourt du premier roman? Votre roman, Le Tiers-Temps, il a été publié un mois avant le premier confinement. Donc j'imagine qu'en tant qu'autrice, on se dit « Ah, c'est mal barré voilà, quand son livre est confiné dès le premier mois de sortie ». Vous vous souvenez de ce moment, du moment de l'annonce?
Oui, bah, ça a été mort et résurrection. Moi, je pensais que ce livre était fini. Donc j'avais fait pas une croix dessus, mais bon, c'était un peu suspendu. Et en même temps, il y avait bien d'autres choses à faire et à penser pendant ce premier confinement. Et puis... cette annonce, juste le jour du déconfinement, ça a été une grande joie et en même temps un moment un peu étrange parce qu'on était tous confinés au milieu des bois en t-shirt Leclerc et d'un coup il fallait répondre à des interviews et c'était un moment très agréable. Il y avait cette étrange résonance aussi du livre qui en lui-même est assez confiné. Donc ça a été un moment joyeux.
Effectivement, puisqu'on va en parler, mais Le Tiers-Temps, c'est le nom de cette maison de retraite dans laquelle Samuel Beckett a terminé sa vie, une maison de retraite qui est située dans le 14e arrondissement de Paris. Serge, ce n'est pas votre premier prix, ce prix Femina, ça reste toujours un moment important, les prix.
Les prix, c'est essentiel pour celui qui le reçoit et pour les autres, c'est une déception. Enfin, moi, j'étais très habitué à la déception. Déjà, être sur une liste, c'était déjà une victoire. Après, bon, alors je l'ai eu le lendemain de l'annonce du deuxième confinement, ce qui fait que ça calme un peu. Et le prix Femina qui a donc été annoncé même avec 2 jours d'avance et qui a été le seul pendant un certain temps. Après, le Médicis s'est déclaré aussi et les autres prix ont dit on attend de voir ce qui se passe, comme le disait Hervé, ce qui fait qu'il a mariné dans une inquiétude, alors que moi, je survolais virtuellement les choses avec mon bandeau rouge dans ces librairies semi-ouvertes pour lesquelles j'avais un laissez-passer pour aller clandestinement faire des dédicaces dans des sacs qui partaient par des livreurs où les gens venaient les chercher. C'est une sorte de marché noir. Ah, c'était étrange, je m'en souviendrai du Femina 2020, quoi. Oui, c'était une anomalie gigantesque et amplement répartie. Mais enfin, après coup, on a toujours une forme de nostalgie de ces situations, même si quand même, enfin bon, moi, ça m'a soulagé d'une chose, je vais vous dire, le deuxième confinement, en plus d'avoir le prix, ça a mis une sorte de terme à cette tournée que l'on fait tous quand on sort un livre. Et comme j'avais... À l'époque, j'étais sur les réseaux sociaux, très anti-Raoultien. Donc, à chaque fois que j'avais une rencontre de prévu, il y en avait normalement 2 ou 3 qui devaient être là pour me casser la gueule. Et finalement, ils sont peut-être allés. Ils sont tombés sur des librairies fermées ou des salons annulés. Tant pis pour eux.
Nature humaine, c'est un livre sur les 25 dernières années du siècle précédent. On y suit Alexandre, qui est éleveur dans le Lot, et à travers lui et ses proches, on suit les transformations de la société, les mutations des campagnes. Je vous ai entendu dire que vous aviez peur à un moment qu'on prenne votre personnage pour un réactionnaire, un passéiste, lui qui restait dans sa campagne du Lot à reprendre la ferme de ses parents, alors que ses sœurs ont décidé de quitter la ferme pour aller à Toulouse, pour aller à Paris. Et puis finalement, vous l'avez dit, le confinement est d'un seul coup avoir une maison au milieu de collines avec 150 hectares, ça paraissait beaucoup moins éloigné, beaucoup moins exotique.
Ah bah, oui, complètement. Oui, enfin, oui, quand je l'ai écrit, j'avais le sentiment de faire le portrait d'un rétrograde finalement. Et avec ces confinements, on s'est rendu compte on a presque tous souhaité vivre de cette façon-là. C'est-à-dire à minima, d'être... moi j'ai fait un confinement citadin et un rural dans le Lot. Et c'est vrai que finalement dans le Lot, à 17h, un couvre-feu, ou dans la Nièvre où sont mes parents, un couvre-feu c'est tard, enfin je veux dire, le couvre-feu dans la Nièvre il est permanent, il est quotidien, je veux dire. Ça changeait pas. Pas grand-chose, j'exagère. Alors que en ville, c'était sidérant de voir tous ces cafés fermés. On se rend compte que la vocation d'une ville, quand même, c'est d'avoir des lieux ouverts au public, quoi. Et sinon, ça n'a plus de sens. Bon. Mais mon personnage, lui, c'est un peu le portrait d'un de ces êtres qui a fait le choix de rester à la campagne. Et ça, c'est une expérience personnelle dans ma famille. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. Hein. Mais par contre, ceux qui l'ont fait... En même temps, dans ma famille, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de déchirement. Mais de fait, on n'est plus vraiment dans la même vie. On n'est plus vraiment dans les mêmes préoccupations. Même si moi, j'ai cette chance d'avoir assez peu de personnalité pour, une fois dans le Lot, devenir un peu lotois ou dans la Nièvre nivernais. Et puis à Paris, parisien. Quoi. C'est une forme de souplesse que je dois à cette manque de consistance, finalement. Okay. Mais qui me permet de m'imprégner d'un peu tous les personnages. Et donc, il est Alexandre est presque... Oui, on a tous souhaité ça. D'ailleurs, il y a des chiffres prétend 400 000 foyers de la région parisienne seraient partis, je ne sais pas où. Enfin bon.
Que les écoles sont vidées.
Que les écoles seraient vidées, qu'il n'y aurait plus personne dans Paris, paraît-il. Il n'y a plus que des trottinettes électriques qui vont seules.
Enfin... Je vous ai entendu dire que vous aviez que un des points communs que vous aviez avec Alexandre, c'est que il n'est pas tenté par l'ailleurs et que vous n'êtes pas, même si vous êtes parti de la campagne pour aller à Paris et que vous continuez à être à la fois citadin et en même temps de retourner dans la Nièvre et dans le Lot, que c'était un de vos points communs, un personnage jumeau, dites-vous de lui. Alexandre, il n'est pas tenté par l'ailleurs, il veut pas prendre l'avion, mais la femme qu'il aime, en revanche, elle est tentée par cet ailleurs. Elle voyage beaucoup puisque Nature humaine, c'est aussi une histoire d'amour entre donc ce paysan Alexandre et une femme qui voyage beaucoup. Ils se voient très peu tous les 4 ans et c'est comme s'ils étaient finalement dans un temps dilaté alors que tout autour d'eux s'accélère, puisque là on parle d'un moment pendant le confinement où les choses se sont arrêtées, mais dans votre roman vous montrez comment est-ce que sur ces 25 dernières années c'est la marche du temps qui vraiment s'accélère, tout qui s'accélère.
Oui, c'est sensible aussi dans les campagnes. D'ailleurs, il y avait ces projections. Alors moi, je m'arrête à l'an 2000. Là. Mon projet, c'était de continuer, de faire en 2 parties. Et bon, et finalement, en 2020, il s'est passé des choses qu'il faut que... Il va falloir peut-être que je revoie un peu mon plan de vol, puisque je voulais inventer une catastrophe écologique. Mais il n'empêche que cette montée vers les années 2000, elle était un peu vertigineuse. Et j'ai des souvenirs avec... mes cousins, tout ça, de ce numéro de Paris Match dans les années, fin des années 70, on parlait de l'an 2000 avec des voitures qui volent, avec des villes toujours plus hautes, mais il n'empêche que l'an 2000, ça concernait la
toujours
ville.
Les villes.
Et l'an 2000 dans les campagnes, c'était pas un sujet de préoccupation, alors que quand même, hein, quand on regarde une carte de France, on n'est pas dans le tout urbain, loin de là. Et donc, ce qui m'a donné l'idée à un moment où l'envie d'écrire ce livre, c'est cette tempête que moi j'ai vécue dans le Lot fin 99, c'est-à-dire dans le moment de préparation de ce réveillon qui nous amenait vers ce fameux an 2000. Eh bien, nous, on s'est pris 3 semaines sans téléphone et 15 jours sans électricité. Ce qui fait qu'on a passé le réveillon de l'an 2000 à ressortir les lampes tempêtes, dont je me souviens qu'on demandait à ma grand-mère à comment ça marche. Il fallait mettre du white spirit ou de l'alcool à brûler. Voilà. C'est-à-dire que là, pour le coup, on s'apprêtait à faire un grand pas en avant. Et puis, l'ironie du sort, en juillet 2000, le Concorde lui-même, parce que le Concorde, dans les années 70, 80, 80, il ne mettait plus que 3 heures pour traverser l'Atlantique. Ça voulait bien dire qu'en 2010, en 2020, il faudrait plus que 45 minutes pour traverser l'Atlantique. Et en fait, non, c'est l'inverse. On met plus de temps. C'est comme le Paris-Cahors, d'ailleurs, j'ai remarqué. Le Paris-Cahors, depuis que je suis môme, tous les 10 ans, on prend un quart d'heure de plus. Là, quand on met moins de 6 heures pour faire un Paris-Cahors, il y a le maire de Cahors qui vous attend à la gare, qui vous remet la médaille, qui vous fait citoyen d'honneur, parce que ça s'éloigne.
Hervé, vos personnages, eux, voyagent. C'est d'ailleurs parce qu'ils voyagent qu'il y a ce roman, L'Anomalie. Vous nous faites vivre une expérience tellement incroyable qu'il faut déclencher le protocole 42. Le protocole 42. Vos personnages... Le protocole 42. Le protocole 42. Vos personnages prennent un vol Paris-New York au mois de mars. L'avion traverse une tempête et il se dédouble, cet avion. L'avion se pose deux fois. Les passagers atterrissent, une première fois donc au mois de mars, après cette tempête. Mais ils atterrissent également 600 jours plus tard. Un temps, vous avez voulu appeler ce roman « L'incident Dostoïevski ». L'anomalie, ce titre que votre éditrice n'aimait pas tellement, d'ailleurs je crois savoir au début, fait référence à différentes choses. Comment est-ce que vous avez finalement décidé d'appeler ce roman « L'anomalie » ?
En fait, l'incident de Dostoïevski, ça faisait référence au double, le livre de Dostoïevski, le double. Et puis finalement, je trouvais ça un peu pédant, donc j'ai pris un titre plus plat. Ça aurait pu être un très mauvais titre. Et c'est vrai que si le livre n'avait pas marché, je pense que on m'aurait reproché le titre a posteriori. Et d'une certaine manière, il est rentré en collision avec la situation dans laquelle on vivait. Et c'était un titre finalement qui était simple à retenir. Donc de titre plat, il est devenu titre assez bon. Et mon idée de travailler sur l'idée du double, en fait, correspondait aux différents topos qui existent dans la littérature sur le double. Et ça me paraissait une erreur de l'appeler l'incident de Dostoïevski, parce que ce n'est pas du tout la même histoire que celle qu'évoque Dostoïevski, dans laquelle c'est plutôt un ennemi. Et là, j'avais plutôt l'idée d'explorer toutes les potentialités qu'offrait la situation de la duplication à des personnages qui sont tous différents de moi, par exemple.
Tous différents ?
Ouais, presque tous, oui. C'est-à-dire, j'ai commencé par avoir l'idée d'une nouvelle, enfin, pas prendre trop de temps, mais la nouvelle, c'était vraiment quelqu'un qui me ressemblait, qui rentrait chez lui et qui se retrouvait confronté à lui-même et qui finalement discutait, en gros, de sa propre vie. Ce n'est pas finalement ce dont parle le livre, puisque ce sont des gens qui ont vécu 3 mois de plus, et ce sont ces 3 mois qui font qu'une différence réelle existe. Et par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un qui serait capable d'assassiner son double. Je suis plutôt un mec, on le bouscule dans la rue, je dis pardon, quoi. Donc, assassiner quelqu'un, ce n'est pas trop mon truc. Et d'ailleurs, si ça l'était, je ne le dirais pas ici en public. Donc, j'ai exploré toutes les possibilités que ferait la duplication et la confrontation à soi. J'ai traité chacune des situations en associant à chacune des situations un personnage. Ce qui est une démarche complètement inversée par rapport à ce qu'on fait en littérature en général. En littérature, on prend un personnage donné et on le précipite dans différentes situations successives. Moi, j'ai pris plein de situations différentes et j'ai fait ce qu'on peut appeler même au cinéma une distribution, un casting. Et j'ai trouvé pour chacune des situations le bon personnage, ou en tout cas le personnage que je voulais traiter, qui puisse endosser, incarner la situation elle-même.
Il y a beaucoup de personnages dans votre roman, une dizaine de personnages principaux, importants pas du tout. Un écrivain, Victor, qui écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle L'Anomalie. C'est pour ça, quand vous disiez tous des personnages très différents, je vous demandais si vous étiez sûr qu'ils étaient tous très, très différents. Un lecteur vous a signalé, je crois savoir, qu'il y avait 80 personnages qu'il avait comptés et qu'il y avait 80 personnages dont le nom était mentionné dans votre roman. Et c'est ce que vous disiez, mais ce nombre de personnages importants, il est lié notamment à votre envie de travailler sur différents genre littéraire, puisque vous évoquiez la distribution que vous aviez faite par rapport aux situations. Les situations sont aussi liées à des styles littéraires.
Ben, c'est-à-dire que dès qu'on a un tueur à gages, on ne peut pas commencer un roman proustien, quoi. Et le tueur à gages, il impose des choses. Donc j'ai commencé par lui, parce qu'en plus, il me permettait d'évoquer le livre lui-même, puisque la première phrase, c'est « Tuer quelqu'un, ça compte pour rien ». Donc il manque un « ne », vous remarquerez. Ce qui prouve qu'on est bien dans une littérarité de nature roman noir. Et puis, une fois qu'on est dans ces différents personnages, c'est une facilité à la fois pour l'auteur et pour le lecteur que d'associer ça à des genres. Alors, les genres ne sont pas poussés au maximum de l'expérimentation parce que sinon, ça fait un roman illisible. Donc, j'ai essayé. C'est toujours sympathique de voir passer l'armée à côté de soi avec des mitraillettes. Hein, ça, c'est... Voilà. On a à chaque fois qu'on a un personnage une association assez naturelle avec un style littéraire qui pourrait lui correspondre. Voilà. Mais une fois de plus, c'est à la fois un travail oulipien dans le sens où c'est un travail sur le genre et sur la multiplicité des genres dans un roman, mais simultanément j'ai limité l'expérimentalité pour lui privilégier la fluidité narrative. Parce que sinon, c'était un roman dans lequel j'aurais fait des ruptures stylistiques trop puissantes. Donc j'ai évité quand même ça.
Vous vouliez un livre qui se lise vite, je vous ai entendu dire.
Oui. Oui, je voulais un livre que les gens commencent à 9h du soir et finissent à 3h du matin en faisant « Putain, il est 3h !» Voilà. Et c'est un projet narratif spécial. C'est un projet où on se dit « Bon, on va accrocher les gens au début et on les lâche à la fin et on leur a gâché la nuit. » Voilà. C'était un peu l'idée.
Je vous ai entendu dire, je parlais du titre, L'Anomalie, tout à l'heure, qu'il ne fallait pas un trop beau titre à un roman.
Il y a un auteur, je ne sais plus qui c'est, qui a dit, ne parfumons, je crois que c'est Cocteau, qui a dit, ne parfumons pas nos roses. C'est assez joli comme idée, c'est-à-dire que, en fait, le titre, évidemment, il y a plusieurs solutions pour un titre. Il y a le titre thématique, le titre qu'on appelle... rhématique, donc par exemple rhématique, c'est par exemple petits poèmes en prose, on sait que c'est des petits poèmes en prose, et puis il y a le titre qu'on peut appeler incitatif, par exemple L'automne à Pékin de Boris Vian, où il n'est pas question d'automne, il n'est pas question de Pékin, mais le titre est bien. Voilà, donc moi j'ai pris un titre, L'Anomalie, voilà, qui en plus, pour la petite anecdote, je me suis rendu compte au moment où le livre était déjà imprimé, qu'il était en route pour les libraires, qu'il y avait un autre titre qui s'appelait L'Anomalie, qui sortait exactement une semaine avant. Et j'ai fait, c'est pas vrai. Et bon, ce titre est passé plus inaperçu que le mien, mais il existait un autre titre, un même titre, quoi. Et c'est pas grave, c'est pour Electre, c'est un peu compliqué, mais c'est tout.
Et pour l'autrice ou l'auteur, donc, cette Anomalie.
C'était un best-seller américain, ça allait. Le double.
Maëlys, le tiers-temps, ça désigne bien quelque chose très directement en lien avec votre roman, puisque c'est le nom, je le disais, de la maison de retraite dans laquelle Samuel Beckett a passé les dernières années de sa vie. Nous sommes dans ce roman en 1989, donc année de la mort de l'écrivain et dramaturge. Le tiers-temps, c'est une fiction écrite à la première personne. Vous aviez la musique de Beckett dans la tête, vous ai-je entendu dire, pour l'écriture de ce roman. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la musique de Beckett dans la tête ?
J'avais bien envie de pas du tout faire une autofiction, mais de devenir un vieux monsieur dans une maison de retraite. Donc c'est ça, c'était une expérience qui m'intéressait beaucoup dans l'écriture. Et puis, j'imaginais juste ce qu'il pensait. Je me disais, tiens, quand même, c'est marrant. Il se retrouve exactement dans la situation qu'il a décrite tant de fois au théâtre, un vieux monsieur qui a mal. Et je me disais, au fond, peut-être ça va le faire rire, cette histoire-là. Il y avait évidemment des témoignages dans les biographies, notamment la grande biographie officielle de Beckett, c'est celle de James Nolson. comme quoi il n'avait pas été si malheureux que ça. Il y a ses correspondances aussi de fin de vie. Il y a une sorte, il y a un côté protestant comme ça chez Beckett qui s'accommode de l'institution et qui finalement rigole aussi parce qu'il est dans un théâtre, quoi. Il ne se passe que des choses absurdes dans les maisons de retraite. La qualité des menus, leur intitulé, les activités proposées, ceux qu'il appelle ses congénères. Et moi, ce qui m'amusait, c'était qu'il pouvait se moquer de cet endroit-là parce qu'il était un de ces vieux-là. Donc à partir de là, le regard n'était pas cruel. En tout cas, il n'était pas plus cruel sur les autres que sur lui-même.
Vous dites ce mot congénère, il se moque aussi du mot résident, oui. Le grand mot, dit-il, pourquoi pas vieille chose qui arpente les couloirs, s'accrochant au mur et usant de leur canne le lino, roi du déambulateur, apôtre du fauteuil, phénix du râtelier. L'auteur ailleurs se qualifie, le narrateur, de pauvre croulant, de vieux débris, de pauvre crouton. Il ne s'épargne vraiment pas dans votre roman.
Non, et en anglais, il dit « old crock », c'est vraiment ça, hein, c'est cette idée.
Justement, c'est ce côté irlandais, ce que vous venez de prononcer. Ouais, avec
L'humour dublinois, l'humour irlandais, c'est un humour extrêmement féroce. Et d'ailleurs, j'y pensais en pleine écriture du livre. Je suis partie à Dublin et je vois dans un parc, et donc cette petite scène, elle fait partie du livre, je vois dans un parc un monsieur d'un certain âge qui voit arriver un de ses copains et qui lui dit « Ah, t'es encore vivant, je cherchais justement ton nom sur la dernière page du journal ». Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait vraiment partie de la culture irlandaise, cet humour-là. Et ce qui est marrant chez Beckett, c'est qu'il en a fait, littérature. Et au fond, c'est un spot d'observation extraordinaire, cette chambre où il peut être à la fois complètement reclus et entendre les bruits du monde. Et tout devient imagination parce qu'en réalité, les murs sont poreux. On entend tout ce qui se passe, on entend les râles, etc. Et tout ça devient une source d'imagination pour lui infinie. Et puis lui-même, il s'observe comme une bête de foire, quoi. Il devient, comme il dit, Victor de l'Aveyron sous la lunette du docteur Itard. Et ça, c'est une manière aussi de mettre à distance la mort et la fin, et de que ça devienne une sorte d'objet d'étude. Et puis, il a quand même écrit tout ça avant. Et ça, il a une fin qui lui va bien. Et moi, la musique que j'avais dans la tête, c'est autre chose, c'est la musique de sa prose et de son théâtre. J'avais Molloy en particulier dans la tête, pourquoi je ne sais pas, mais Molloy m'était resté comme ça. Et puis, bien sûr, son théâtre. Et Beckett, en anglais et en français, garde exactement la même rythmique nerveuse comme ça. C'est dans une continuité qui fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on passe d'une langue à l'autre. Et en même temps, il y a des créations quand il sait lui-même, donc il a écrit en français principalement, sauf un roman, Murphy, et il s'est traduit lui-même en anglais. Mais il a réussi cette performance-là qui fait qu'on se retrouve exactement dans la même musique. Et cette musique, justement, très serrée, très nerveuse, bah, elle est complètement à l'opposé de ce qui se passe en fin de vie. Et moi, j'aimais bien l'idée que le corps devienne très lent et que le cerveau accélère comme ça, et qu'il y ait des espèces de mouvements d'aller-retour, parce que lui, il reste ce type incroyablement nerveux qui, pendant les exercices de kiné, décide quand même d'accélérer jusqu'à se casser la figure. Il reste paradoxalement casse-cou dans cette situation de fin de vie où il ne peut plus. Et j'aimais bien cette continuité du personnage et une continuité aussi dans sa langue. Donc il fallait qu'il se parle d'une manière qui lui ressemble sans écrire comme lui. Donc il fallait retrouver quelque chose de ce rythme.
Et c'est extrêmement réussi, mais c'est vrai que moi je me mets dans la position de l'autrice que je ne suis pas, et je me dis qu'on se lance dedans et qu'on n'est pas encore arrivé au moment où on se dit effectivement le roman est terminé, est-ce qu'à un moment on se dit pas dans quoi je me suis lancée, est-ce qu'il faut justement ne pas se dire, ne pas avoir trop de pression par rapport à l'œuvre même, puisque c'est un auteur que vous admirez, est-ce que y a cette pression là ou est-ce que justement le fait d'avoir cette petite musique comme vous le disiez, le fait d'être lancé, on ne se pose plus ces questions là et juste on raconte en fait, parce qu'on sent qu'il y a énormément d'amusement dans votre façon de parler du roman, et quand on lit, effectivement, à aucun moment on se pose ces questions-là. Mais je me dis, voilà, en tant qu'autrice qui fait ce geste-là, est-ce qu'on se les pose ces questions ?
Eh bien, moi, je me la suis pas trop posée, peut-être par bêtise. Hein. C'est mes éditeurs après qui m'ont dit, mais c'est gonflé quand même. Et moi, j'ai pas pensé. J'étais un peu dans la même démarche qu'Hervé. L'exercice, en fait, de style et d'empathie, je me disais, ça doit le faire marrer quand même. Enfin, je veux dire, il se retrouve là, C'était tellement raccord, c'était tellement parfait. Même le titre, le tiers-temps, c'est le vrai nom de la maison de retraite dans laquelle est mort Beckett. Maintenant, c'est une chaîne assez chic d'EHPAD. À l'époque, c'était pas très chic. C'était un petit EHPAD de quartier dans le 14e arrondissement. D'ailleurs, ça s'appelait pas EHPAD, mais maison de retraite. Et c'était un lieu assez austère. Et finalement, le tiers-temps, quand on connaît les pièces de théâtre de Beckett, les didascalies, il est toujours question d'attendre un temps, de compter les temps. Ça lui allait bien. Le côté rugby, tout était très beckettien.
Et puis, vous en servez aussi pour la construction du roman de ce tiers-temps.
Ben, il y a trois temps, oui, c'est ça. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, mais c'est aussi, c'était aussi un. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'il est très compliqué à traduire ce titre. Ça fonctionne qu'en français à peu près, le tiers temps. Mais il y avait aussi quelque chose en trois qui marchait bien par rapport au rythme de ses phrases, à son côté, à ses énumérations, ses verbes à l'infinitif, qui fonctionnaient bien. Donc, il n'a jamais été question d'un autre titre, en fait. C'est le titre de travail qui est resté comme ça.
Hervé, je vous ai entendu dire, c'était dans une rencontre, je crois, à la BNF. Vous parliez justement des influences de manière beaucoup plus générale que ce dont on est en train de parler en ce moment. Mais vous disiez que justement, vous n'aviez pas peur d'être sous influence et que cela s'apparentait finalement à un approfondissement de son propre travail grâce à d'autres auteurs, que c'était un compagnonnage finalement.
Oui, en fait, il y a une phrase de Paulhan qui m'avait beaucoup marqué, qui était la phrase suivante, il n'y a pas de sentiment plus sot en littérature que la peur d'être influencé. Voilà. Et ça m'avait toujours frappé, et puis en essayant de réfléchir à ce que ça pouvait signifier, ça parlait en fait moins de la manière dont un auteur peut influer sur un autre que la manière dont, au fond, si certains auteurs ne nous influencent pas. C'était ça la réflexion, en inversant le paradigme, si certains auteurs ne nous influencent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'écho à ce qui est en nous. Et donc mon idée était plutôt que, en fait, les auteurs qui nous influencent, et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être influencé par eux, c'est qu'en fait, ce qu'ils touchent en nous, c'est nous. Et donc, la manière dont on va les appréhender, pour moi c'était Calvino, c'était Gary, c'était des auteurs comme ça, là, oui. Donc ces auteurs-là qui ont beaucoup compté pour moi, c'était parce que ce qu'ils disaient, et la manière dont ils le disaient surtout, dans leur stylistique, dans leur manière de raconter la fiction, dans la manière d'être à la fois, aussi pour Calvino, relativement philosophe, ça rentrait en écho avec une manière dont j'avais non seulement envie d'écrire, mais qui était moi, quoi. Et donc cette idée de l'écho me paraît plus forte que l'idée de l'influence. Et c'est inverser la chose, en fait, mais ça veut dire que, en fait, chez les auteurs, ce qui compte, c'est la manière dont ils reflètent quelque chose qui est déjà en nous. Alors, ça paraît contradictoire aussi avec le fait que de nouveaux auteurs qui apparaissent peuvent aussi, effectivement, faire apparaître des choses en nous. Mais c'est, au fond, c'est parce qu'il y a cet écho, ce qui est nodal dans notre écriture ou dans notre façon de voir la vie, plus encore, peut-être d'ailleurs, fait qu'on est proche de certains auteurs et pas du tout d'autres. Par exemple, j'aime beaucoup l'écriture de Céline, mais ça ne fait pas écho en moi. Alors que Calvino, c'est absolument évident. C'est vraiment quelqu'un qui est un auteur pour moi, idem pour Gary, et idem pour d'autres auteurs.
À 13, 14, 15 ans, vous écriviez des petites nouvelles, justement, influencées, en tout cas accompagnées par des auteurs comme Boris Vian, Romain Gary, Frédéric Brown, que vous aimiez aussi beaucoup, et vous partagiez ces nouvelles. C'est comme ça que vous est venu le goût de l'écriture. C'était ces petites nouvelles que vous partagiez et vous aperceviez que ça faisait écho chez les gens.
Oui, et puis pour moi, c'était une façon de faire pareil. Je crois beaucoup à l'idée de faire pareil. À l'Oulipo, on n'a aucun problème avec cette question de faire pareil. Par exemple, on a un roman collectif qui s'appelle Le Voyage d'hiver, qui part d'une nouvelle de Pérec que Jacques Roubaud a continué, que moi ensuite j'ai repris, qui a été repris par Jacques Jouet, et finalement on a été une dizaine à faire un roman collectif. Donc cette idée de faire pareil ne nous dérange pas. Il y a un roman d'Italo Calvino qui s'appelle Le Château des Destins Croisés, et Jacques Bince a écrit La Taverne des Destins Croisés, qui lui correspond mieux d'ailleurs. La Taverne correspondait bien à Jacques Bince, et c'est la même contrainte, c'est le même processus, c'est la même narration. Donc il n'y a jamais cette idée qu'on fait tout à fait pareil, parce qu'en fait, lorsque on fait pareil, on fait avec ses propres instruments personnels, et ça n'est jamais tout à fait une copie ni un plagiat. Donc notre notion du faire pareil, c'est pas du plagiat. Donc on a un rapport un peu compliqué à l'écriture. Et puis on est assez d'accord avec la phrase de Borges, qui est l'idée que un auteur crée ses propres prédécesseurs. Voilà, que nous appelons pour nous des plagiaires par anticipation. Des gens qui font comme nous, mais avant nous. Voilà. Et cette idée, c'est aussi une inversion relativement forte de l'historicité de la littérature, qui dit que sur une étagère cohabitent des livres qui sont de différentes époques, mais qui pour nous participent de la même création universelle et qui n'est pas dans une temporalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt des retraductions. Lorsqu'on retraduit, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, on redonne une contemporanéité. Je crois que c'est la première fois que
et
j'arrive à le
dire.
Tu l'as
dit, mais remarquablement, ouais.
À peu près normalement.
Il ne faut pas le retenter. Il faut rester sur cette...
Non, c'est comme quand on a une rainure, vous savez, en classe, et que le prof, il balance la craie, qu'elle tombe dans la rainure. Il ne faut surtout pas qu'elle produise le truc. Donc voilà. Contemporanéité. À la nouvelle traduction de l'Odyssée. Et moi, j'aime bien cette idée que tous les livres sont contemporains parce qu'ils sont lus par un lecteur à un moment donné.
Serge, quels sont les auteurs, les autrices qui vous ont accompagné, donné le goût de l'écriture? Et est-ce que certains vous ont plus particulièrement accompagné pendant l'écriture de Nature humaine?
Non, enfin moi, si je veux être honnête, il y a un texte qui m'a peut-être... Non, je dirais pas décomplexé, mais enfin, c'est les exercices de style de Raymond Queneau qui me démontraient que d'une certaine façon, il pouvait y avoir un caractère un peu ludique, enfin, que la fantaisie était légitime, ce qui n'était pas nécessairement admis. Enfin, moi, j'étais chez les jésuites. Enfin, bon, c'est le cas de. Oui, non, monsieur. Ce qui me tient à cœur à tout moment, moi, c'est avant tout. Par exemple, il ne faut pas. Hervé parlait de Céline. Le problème, c'est de la contamination. Je veux dire, si je lis Le voyage au bout de la nuit, que je reprends parfois comme ça, en même temps, si je le reprends, c'est que c'est un très vieil exemplaire de poche dans lequel je retrouve des tickets de métro jaunes ou des billets de train ou des numéros de téléphone à 5 chiffres. Parce que moi, j'écris, j'annote sur mes livres. Donc, c'est à la fois une exploration d'un vestige personnel. Bon. Mais lire Céline, ou peut-être même Duras d'ailleurs, c'est malgré soi se mettre pendant 15 jours après à écrire comme, à pasticher sans s'en rendre compte. Quoi. Après, ce qui me tient à cœur, moi, pour tout dire, c'est pas tant la façon de faire que d'essayer de montrer quelque chose. Et on n'y arrive jamais, mais quand même, je suis un peu spectateur de mon époque, on l'est tous, et... Je venais à Brive bien avant de publier. Enfin, j'y venais pour des raisons familiales. Bon, et il y a 40 ans, j'aurais ce salon. Bon, je savais qu'il existait sans y être allé quand j'étais ado. Et qu'en 2021, il y aurait tout le monde aurait un masque, par exemple. Il serait presque impudique de pas... Moi, je me sens un peu nu là devant vous. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en public sans masque. Je trouve ça vertigineux. Je vous envie, vous, de pouvoir le garder. Et cerné par la lumière anti-UV germicide qui a l'air efficace jusqu'à maintenant, je pense qu'on est tous toujours séronégatifs là, depuis trois quarts d'heure. C'est admirable. Merci UV germi. Qui fait sa publicité, mais enfin bon, c'est l'occasion ou jamais pour eux, parce que c'est... Et en même temps, il y aurait, en plus de ça, des sortes de plots d'une tonne chacun, dans le cadre de Vigipirate, la mission Vigipirate, qui explique aussi qu'il y ait des patrouilles comme ça, des formations en diamant de parachutistes du génie de Montauban, qui ont le gilet tactique rempli de talkie-walkie et de grenades au cas où, qui, eux, ne sont pas là pour nous protéger du virus, mais du terroriste. Et ça n'en finit pas. On ajoute des couches comme ça qui nous coupent de notre environnement. Et moi, j'ai très proche... Enfin, mes parents vivent dans la maison de ma grand-mère qui, elle-même, n'a pas fait plus de 20 kilomètres. Enfin, je veux dire... Oui, sa vie s'est passée dans un rayon de 25 kilomètres, on va dire. Et moi, je suis d'une génération où il est même possible de prendre l'avion et de se retrouver deux fois à New York dans une même vie, enfin, en étant parti qu'une fois. Vous voyez, bon. Ça me semble vertigineux. Je vois mon projet comme ça, c'est de décrire ce moment-là de notre, plus que notre civilisation, de notre humanité, qui est pour moi comme une sorte de nouvelle. Il y a eu l'âge de bronze, l'âge de fer, et là on entre dans l'âge de je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on l'appellera dans 3000 ans, mais on va vers autre chose. Quand je passe les étés dans le Lot à non plus mesurer l'eau qui reste dans la réserve, mais aller repêcher les jets qui se prennent dans la vase comme dans une marée noire parce qu'ils pensent qu'il y a de l'eau, mais il n'y en a plus en fait. On a passé le printemps avec mes beaux-frères à se demander si les chênes allaient refaire des feuilles parce qu'il y a un moment, ils sont tous crevés, sachant que les buis sont morts il y a 3 ans. Il n'y a plus de feuilles aux buis, alors que nous, on a beaucoup de terre dans la famille, mais elle vaut rien. C'est du cause, c'est du buis et du chêne, quoi, et un peu d'érable de Montpellier. Et tout ça, maintenant, on en est presque d'année en année à se dire, bon sens, qu'il y aura des feuilles l'année prochaine. J'exagère pas. Cette accélération-là, qui, alors après, bon, on l'interprète comme on veut, on y est peut-être un peu pour quelque chose. Moi, j'ai un peu le projet d'écrire là-dessus. Après, la question du style et tout, ça me renvoie à essayer de trouver une forme de simplicité et de me caler sur une forme d'authenticité de mes personnages, de les faire exister pour de vrai. Donc, je me suis un peu détaché. Je ne sais pas si je suis en littérature, moi. J'écris des livres. Enfin, oui, on est tous en littérature, mais il y a un moment, il faut aussi s'émanciper de ses influences et essayer de porter son propre projet.
Et vous parliez de ces personnages, vous parliez de votre grand-mère et des numéros de téléphone. Ça me fait penser à un personnage qui est très important dans votre roman, qui est le voisin d'Alexandre, et qui, comme un voisin de votre grand-mère, d'ailleurs, je crois, refuse qu'on installe les poteaux de téléphone devant chez lui. Je pense à ça quand vous parlez de l'observation, parce que c'est ce que vous décrivez tout au long du roman, c'est-à-dire le territoire qui évolue, les choses qui arrivent, les hypermarchés qui se développent, le mammouth, où à un moment vous parliez d'eau, il y a un instant, on dit, ben, vous vous rendez compte qu'en fait, on pourrit les sources pour que vous alliez acheter des bouteilles d'eau en plastique au mammouth. Ces personnages qui sont présents dans votre roman, ils sont inspiré de toutes ces personnes que vous avez croisées, que ce soit dans la Nièvre, dans le Lot, je parlais du voisin de la grand-mère. C'est ça aussi qui fait vraiment l'authenticité de ce roman, c'est que tous ces personnages existent de manière très, très forte quand on lit votre roman.
Oui, ils existent pour de vrai. Enfin, ce voisin, et ma grand-mère elle-même ne voulait pas le téléphone. C'est un peu mes parents et frères et sœurs qui lui ont imposé d'avoir un téléphone. Elle ne voyait pas le... Et ça, c'est pas... Enfin, c'est les années 70, hein, c'est pas non plus... Alors qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est devenu un instrument de... Enfin, je veux dire, c'est une sorte de délégation de la présence. Enfin, moi, une fois, j'ai perdu mon portable en déplacement. Il n'y avait plus de billets, il n'y avait plus rien. Je n'avais même pas mon propre numéro. Enfin, je ne pouvais même pas appeler chez moi. Enfin, j'ai trouvé ça affolant. Donc, j'ai repris un agenda où j'ai tout noté à la main. J'ai perdu aussi, enfin, bon, oui. Il y a un moment, ce Cressac, et en même temps, il a aussi il était environné de militants anti-nucléaires à l'époque, et ça, c'est pareil, c'est début des années 80, enfin, c'est 70, et Dieu promettait qu'il n'y aurait jamais de nucléaire en France, enfin, c'était pas possible. Et finalement, aujourd'hui, ils sont devenus... Ça fait pareil avec l'éolien. L'éolien, on a trouvé ça formidable quand même au début. Mince, c'est vrai, quoi. Puis l'idée, elle n'est pas neuve. Je veux dire, le moulin à vent, on n'a rien inventé. Quoi. C'est tout simple, c'est tout bien. Et aujourd'hui, alors, il y a une sorte de blocage universel sur l'éolien, sur l'éolienne. On est complètement perdu, en fait. Et on n'ose pas se l'avouer. Et aujourd'hui, on a promulgué un arrêté préfectoral, et au-delà d'ailleurs, qui interdit... On a reconfiné les volailles aujourd'hui. C'est-à-dire que si... Enfin, mes parents ont des poules, s'il fallait... S'ils veulent ouvrir, s'ils veulent les sortir, il faut qu'ils téléphonent au préfet avant, savoir si on a le droit. Sachant que s'ils les sortent, il y a de plus en plus de renards. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Enfin, ils se font bouffer 3 poules par an, mes parents. Hein, en même temps, bon, ils n'en ont plus que 3, mais donc ils en rachètent.
Les miens aussi.
Pour faire des œufs qu'on ne mange pas et qu'on congèle. Enfin bon, bref. Il y a un moment où on s'est cru, je pense, émancipé de l'environnement et affranchi d'une certaine façon surpuissant. Et en fait, on est en train de se faire bouffer à nouveau par cet environnement. Et d'ailleurs, cette crise a été assez, pour moi en tout cas, significative de la totale vacuité du discours des philosophes contemporains, enfin, je veux dire des philosophes d'aujourd'hui, ceux qui sont sur Twitter, sur la radio, à la télé, les comptes Sponville ou BHL et les autres, qui en fait sont totalement incapables de penser le présent, le réel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas admis ou ils se sont défaits de cette idée-là que nous participons, nous sommes des mammifères au même titre que la chauve-souris qui est un mammifère et non pas un oiseau. Enfin, je veux dire, non, mais j'ai l'air de vous
choquer. Je vous écoute, je bois vos paroles.
Non, pardon. Et tout ça fait qu'on participe de cet écosystème qui fait qu'on est dans cette situation totalement folle.
Ce que vous montrez, c'est que c'est un énorme boulot. Vous parlez là des animaux. Alexandre a bien plus d'animaux que vos parents. C'est pas l'affaire de 6 poules ou de 3 poules. C'est énormément de vaches. Est-ce que ce qui apparaît aussi par rapport justement à ce voisin qu'on évoquait, qui lui fait du fromage de chèvre, mais qui le vend sur le marché. Donc il y a quelque chose. Il n'est pas obligé de rentrer dans cette marche forcée quelque part de surproduction. Enfin, même pas de surproduction, mais de production. Et c'est ce que vous décrivez aussi très bien. Et ça va avec ce que vous étiez en train de dire. C'est la façon dont finalement la société, l'accélération de la société, le fait que ces hypermarchés, ça implique que si en tant qu'éleveur on veut vendre ses bêtes au supermarché, ben c'est pas en vendant une vache par mois qu'on va réussir à rentrer dans leur contact, en tout cas dans les rayons. Donc c'est tout ça que vous montrez à travers ce personnage aussi, ce personnage qui aime la nature et qui se retrouve dans une dynamique dans laquelle il se retrouve pas.
Oui, d'ailleurs il ne fait que se couper de son environnement, de sa famille. Le fait même qu'il soit éleveur de bovins. Enfin. Mais cette fracture-là, moi, je la ressens aussi, finalement. C'est vrai qu'on tuait le cochon jusqu'à dans les années, je ne sais plus, enfin, peut-être autour des années 2000, je ne sais plus, dans ma famille. Hein. Enfin, en tout cas, dans ma famille, on ne le fait plus, et ça semblerait assez malvenu de se mettre à élever, ou d'aller acheter un cochon pour le tuer. Enfin, moi-même, je tuais les lapins pour ma grand-mère. Enfin, on les mangeait. On mangeait le lapin avant. Oui, enfin, c'est plus qu'un... Au millénaire précédent. Oh, c'est pas le siècle, ça. Tout ça, enfin, je me sentirais totalement incapable de prendre un lapin du clapier et de lui foutre un coup de... Enfin, j'ai pu faire ça et on faisait pire parce qu'on avait beaucoup de chats. Alors, bon...
Non. Faut demander à l'hôtelier, tu sais.
Qu'est-ce qui fait que c'était légitime et c'était un mouvement naturel qui faisait qu'on... Alors qu'aujourd'hui, mon Dieu, même je vois un Intermarché Express, là, je les devine, les rayons, le rayon viande avec les tranches de roast beef sous blister. Il y a un moment, moi-même je suis dans cette fracture-là, je suis pas Cressac pour autant, mais...
C'est
compliqué à dire aujourd'hui que je suis éleveur de bovins. Et... Alors voilà, ce n'est pas une provocation qui fait que je voulais mettre un éleveur en scène, c'est que j'en ai autour de moi et que d'une certaine façon, ces questions-là les ont évacuées. Ils sont dans une forme de permanence. Cette permanence vers laquelle on veut revenir d'ailleurs, c'est ça qui est très étonnant. En se remettant, en tout cas pour ce qui est de ma famille, à donner à manger de l'herbe aux vaches. En fait, ce sont des ruminants. Ce sont des herbivores, les vaches. On l'avait un peu oublié, ça. On leur a donné des farines, justement, dans les années 90. Enfin, on a donné avant, mais à partir des années 90, arrive l'épisode de la vache folle, que là aussi, on a oublié. Et moi, qui mangeais beaucoup de viande à l'époque, quotidiennement même, c'est vrai que j'ai eu peur, non pas du coronavirus, mais de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, parce que il y a un moment, la panique nous a gagné, ça. Donc, tant que la période d'incubation, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est 10, 20, 30, 40 ans. Voilà. C'est pas 15 jours, c'est pas 3 jours. Hein. On peut faire un test, ceci dit. Hein. Bon, ben. Voilà le génie de Montauban.
On l'entend, votre livre est politique, évidemment, parce qu'il décrit des changements, parce qu'il décrit justement ces changements, parce qu'il raconte la mutation des campagnes, aussi parce qu'il y est très directement question d'activisme dans votre roman à travers plusieurs personnages. Hervé, par rapport à cette notion de roman politique, je vous ai entendu dire quelque chose que je trouvais très intéressant comme toujours, bien évidemment. Vous disiez que vous vouliez, avec l'Anomalie et peut-être au-delà de ce roman, faire un roman politique, mais politique dans le sens qui s'inscrit dans la cité, c'est-à-dire d'aborder effectivement des questions qui sont importantes pour nous aujourd'hui, mais justement avec ce sens très littéral du mot politique, du sens premier finalement.
Oui, alors moi j'ai été militant pendant des années quand j'étais adolescent. Voilà, l'adolescence dure longtemps chez les enfants et chez les garçons jusqu'à l'âge de 30 ans. Voilà. Et puis, hein, chez les Oulipiens, on reste enfant très longtemps. Et ensuite, j'ai travaillé pour le journal Le Monde, où pendant 15 ans, j'ai fait une chronique quotidienne. Bon. Donc ça veut dire que dans la littérature, lorsque j'écris des choses politiques, j'essaye de ne pas le faire de manière politicienne ou... Donc moi, ma préoccupation principale, c'est aujourd'hui, c'est la question du déni. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est le déni du réchauffement climatique, le déni de l'efficacité des vaccins, enfin tout ce qui est finalement qui participe d'un fonctionnement mental qui m'échappe un petit peu. Bon, ça m'intéresse en fait. Et pour moi, Dans ce livre-là en particulier, je me dis que si on était confronté à une situation comme celle qui est évoquée dans l'Anomalie, c'est-à-dire une situation qui pourrait nous laisser croire qu'en fait nous n'existons pas tout à fait, et que nous sommes donc des êtres non pas biologiques mais électrico-programmés, ce qui est possible. Hein. J'ai vu quelque part dans un article récent de Scientifique américaine que la chance était de 47%. Qu'on vit dans une simulation. Et j'étais content que ce ne soit pas 51, vous voyez. On est content du petit décalage qui fait qu'on est en dessous de la moitié et on se dit, bon, ça va. Voilà. Mais 47, c'est quand même beaucoup. Et donc, dans cette idée du déni, pour moi, c'est quoi ? C'est le fait qu'on est des êtres de déni. Les hommes sont faits comme ça. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres qui avons conscience qu'on va mourir et que pour un animal... C'est pas facile, dès l'âge de 5 ans, de se préparer à l'idée qu'il va disparaître et qu'il est limité dans un temps. Donc on est fait pour pouvoir s'endormir le soir sans se dire qu'on va mourir dans 20, 30, 40, 50 ans, ou plutôt dans 50, 30, 10. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Donc on n'est pas fait pour vivre dans la mort. Donc... On est des êtres de déni pour tout le reste aussi. Ça fonctionne de la même façon. C'est le même système. Et d'une certaine manière, j'ai repris dans le livre l'histoire de Prométhée et de Pandore, parce que je trouve que c'est le plus évocateur de tout dans la mythologie grecque. Vous vous souvenez de la boîte de Pandore, elle laisse passer tous les mots, ils s'échappent. La misère, la faim, la guerre, tous les mots s'échappent. Et c'est pour ça qu'on vit dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais il y a un seul mal, et qui est le pire de tous, qui reste dans la jarre, qu'elle arrive à refermer juste à temps. Et ce mot, ce mal qui est le pire de tous, c'est l'espérance. Et je trouve ça absolument incroyablement admirable de la part des Grecs de dire le pire des maux, c'est l'espérance. Et c'est la vengeance de Zeus pour avoir volé le savoir. Puisqu'il offre Pandore comme cadeau à Épiméthée, qui est le frère de Prométhée. Donc, en fait, il offre au frère de celui qui a découvert le savoir le pire des maux, qui est... l'espérance reste en nous, et c'est notre pire des maux, parce qu'elle nous interdit d'agir. Donc, en gros, ça ira mieux demain. Ben non, ça ira pas mieux demain, mon pote. Ça va être de pire en pire. Et donc, on a cette idée qu'on va pas mourir... qui nous vient de deux démarches différentes. La première, c'est qu'on ne mourra pas parce que Dieu existe et qu'on aura une vie après la mort. Et puis si on ne croit pas en Dieu, on ne va pas mourir parce qu'on a des enfants et qui sont notre continuité. Et puis on ne va pas mourir parce qu'on a écrit l'Anomalie ou qu'on a écrit des livres, quoi, ce qui est absurde. En fait, on va mourir, quoi. Et donc on est des êtres de déni. Et ça me frappe. Et pour moi, c'est ça le plus politique de tous. De tout, c'est la question du déni qui me semble l'essentiel.
Maëlys, Hervé disait ce qui restera de nous, ce sont nos livres. Je le disais, le tiers-temps, c'est votre premier roman. Quand on a remporté le Goncourt du premier roman, comment est-ce qu'on se remet à l'écriture? Comment est-ce qu'on envisage la suite? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous plonger? Je crois que ce roman, il est né dans un atelier d'écriture, c'est ça? Comment est-ce qu'on se projette et sur quoi est-ce que vous travaillez, en fait?
Bah, moi, quand il est sorti, j'avais déjà commencé mon deuxième roman. Donc en réalité, j'étais pas dans cette dynamique qui a pu faire que le prix pouvait être. Pourquoi est-ce qu'il aurait été inhibant au fond? J'en sais rien.
Je vois pas.
Mais en tout cas, non. J'étais déjà en train d'écrire le deuxième roman parce qu'il y a eu un décalage entre le moment où j'ai écrit et le moment où il est sorti. Voilà. Le deuxième sort en janvier prochain. Il s'appelle Les Amours dispersés. Et en réalité, c'est trois livres que j'ai décidé de faire entre la France et l'Irlande, une sorte de trilogie irlandaise. Donc le premier s'intéresse à Beckett, le deuxième concerne le corps du poète et prix Nobel et père de l'indépendance de l'Irlande, William Butler Yeats, qui a en quelque sorte disparu. En tout cas, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il a été enterré, puis on a rapatrié. On ne sait quel reste. Peut-être un bout de tibia d'un Anglais à la place de Yeats en Irlande. Et c'est une histoire autour de ce corps qui est, comme dans un de ses poèmes, il le dit, suspendu quelque part parmi les nuages. En tout cas, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait de nos morts et une enquête autour de ça. En tout cas, sur la question de l'écriture et des auteurs, c'est vrai que le personnage de Beckett, en tout cas dans le tiers-temps, il n'est jamais seul parce que justement, il a avec lui tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a entendu, toute la musique, toute la peinture, le théâtre, les mots de Joyce, les mots de Proust. On parlait des influences d'écriture. Beckett n'a cessé de réécrire le début de la recherche. Il n'a cessé de le faire, même dans son dernier livre, qu'il était en train de traduire au tout début de son séjour dans la maison de retraite. Il a passé son temps à réécrire la première scène de La recherche du temps perdu, parce que c'est pour lui une des plus belles scènes de la littérature, comme il a aimé Proust, comme il a aimé Dante. Voilà. Et donc, finalement, même si on n'est pas immortel, comme nous l'a rappelé aimablement l'ami Le Tellier, il y a quand même ce monde-là qui permet de supporter un peu mieux le reste.
Merci finalement, pour cette conclusion beaucoup plus joyeuse.
Finalement, Beckett, il supporte mieux la maison de retraite, non pas parce qu'il aime bien le velouté forestier qu'on lui sert ou le flamby, mais parce qu'au fond, il a cette capacité de se retirer dans ce monde-là, ces mots-là,
dans la maison du
ces musiques-là, voilà, qui lui permettent quand même d'oublier un peu le reste. Ce déni-là, il est parfois salvateur.
Merci beaucoup, merci, ce sera les mots de conclusion. Merci beaucoup Maëlys Vesris, Serge Goncourt, Hervé Le Tellier. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous cet après-midi.